Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, chaire Sciences du logiciel.
Bonjour à tous et à toutes, et ainsi que à ceux qui nous suivent via les enregistrements sur le web. Et donc bienvenue à cette quatrième séance de cours sur le calcul sécurisé. Et donc aujourd'hui, on va commencer le premier de deux cours sur le calcul multipartite sécurisé, et on va parler de différentes manières de partager les secrets et de calculer de manière conjointe entre plusieurs participants. Donc des petits rappels sur le calcul multipartite sécurisé, c'est des choses qu'on avait déjà mentionnées lors du tout premier cours. Oui, souvent connu avec l'acronyme anglais MPC pour Multiparty Computation ou Secure Multiparty Computation. Et donc l'idée, c'est qu'on a n participants et qui ont chacun des secrets, XI, des données secrètes, et on veut qu'ils coopèrent ils veulent coopérer entre eux pour calculer une certaine fonction des secrets. Et le résultat de l'évaluation de la fonction Y est révélé à tous. Et l'idée centrale, c'est que chaque participant n'apprend rien sur les secrets des autres, qu'il ne peut pas déduire du résultat final Y et de son propre secret à lui. Alors un exemple qu'on avait donné, alors ça c'est pas un exemple informatique, c'est un exemple du monde réel, c'est le dépouillement d'un appel d'offres. Donc généralement, ça procède avec un tiers de confiance, qui est l'organisme, l'autorité qui met en place l'appel d'offres. Donc chaque participant envoie son offre à l'organisateur, au tiers de confiance. Le tiers compare tous les montants des offres et en choisit une de montant minimal. Donc il choisit J tel que XJ est le plus petit des offres XI, et il annonce J. Voilà. L'offre numéro J est la meilleure, et c'est elle qui est retenue. Et c'est tout ce que les participants apprennent. Ils apprennent donc que l'offre de J est minimale, et donc que l'offre de J est inférieure ou égale à la leur, mais c'est tout. Ils apprennent rien d'autre sur les montants des offres, de l'offre gagnante et des offres des autres participants. Et une des questions du calcul multipartite sécurisé, c'est est-ce qu'on peut réaliser ce calcul de manière distribuée entre les différents participants sans recourir à un tiers de confiance et sans révéler les secrets XI à personne, puisque là, ils sont quand même révélés au tiers de confiance. Voilà. Alors, peut-être, avant de commencer, une petite comparaison entre cette approche de calcul multipartite sécurisé et puis l'approche de chiffrement homomorphe qu'on a étudié dans les deux cours précédents. Et en fait, ce sont deux manières très complémentaires d'effectuer des calculs avec des garanties fortes de confidentialité. Donc le chiffrement homomorphe, c'est pas le même paradigme. Le chiffrement homomorphe, c'est un paradigme de calcul délégué, de calcul dans le cloud. On a un client, un usager, un calculateur. Le client détient tous les secrets. Le calculateur n'a pas de secrets qui lui sont propres. Et la raison pour laquelle le client délègue le calcul à quelqu'un d'autre, c'est que le calculateur a beaucoup plus de puissance de calcul. Donc ça va être moins coûteux ou plus efficace de faire le calcul par le calculateur dans le cloud, disons, que de le faire nous-mêmes sur nos données secrètes. Le calcul multipartite, c'est un calcul qui est essentiellement distribué, ou réparti, entre n participants, et qui sont relativement symétriques entre eux, d'accord ? Chaque participant a ses secrets, tous les participants ont à peu près la même puissance de calcul, on n'est pas en train de partir du principe que certains sont beaucoup plus puissants que d'autres, et ils vont tous faire à peu près la même quantité de calcul. Les résultats vont être connus de tous les participants à la fin, et non pas juste du seul client, comme dans le chiffrement homomorphe. Et puis, ben, la différence techniquement, c'est que le chiffrement homomorphe, c'est un protocole non interactif. Le client envoie toutes les données et toutes les clés et toutes les matrices de changement de clé au début au calculateur. Le calculateur mouline et renvoie des résultats au client à la fin. Alors que vous allez voir que dans le calcul multipartite, ce sont des protocoles interactifs où il y a des communications entre participants tout au long du calcul. Et du coup, ça veut dire un grand volume de communication dans le cas du calcul multipartite, et alors que c'est plutôt un faible volume de communication, mais un grand volume de calcul dans le cas du chiffrement homomorphe. Et dernière chose à mentionner, c'est que on peut tout à fait avoir des protocoles qui utilisent les deux. Des protocoles qui sont du calcul multipartite sécurisé, où on utilise du chiffrement homomorphe ou faiblement homomorphe pour réaliser certaines opérations. On avait vu un exemple au premier cours qui était l'intersection privée de deux ensembles, où il y avait un peu de chiffrement homomorphe pour évaluer un polynôme sans en révéler les coefficients. Bien, donc... Ah oui, donc pour le calcul multipartite sécurisé, voilà en gros les principaux critères de correction et de sécurité. Alors le critère de correction de base, c'est que si tous les participants suivent le protocole, tous les participants sont honnêtes, le résultat du calcul, c'est le bon. C'est bien la fonction f des secrets XI rentrés par les différents participants. Après, bien sûr, les participants ne sont pas forcément toujours honnêtes. Alors, on distingue la sécurité passive et la sécurité active. Donc, la sécurité passive, les attaquants se contentent d'essayer de trouver les secrets. Ils continuent à suivre les règles du protocole, mais ils vont quand même essayer d'apprendre des choses sur les secrets des autres participants, éventuellement en se mettant ensemble, en se mettant en collusion. Et donc, le résultat qu'on cherche, c'est qu'une collusion de O plus A participants, où A est une constante, une grandeur qui dépend du protocole utilisé. Donc une collusion de O plus A participants ne peut rien apprendre des secrets des autres participants, des participants honnêtes. Bien sûr, à l'intérieur de la collusion, ils peuvent mettre en commun leurs secrets ou toute autre chose, mais l'important, c'est de protéger les secrets des participants honnêtes. Après, il y a la sécurité active. Là, on essaye de se protéger de participants qui ne suivent pas forcément les étapes du protocole, par exemple, qui peuvent injecter de fausses valeurs intermédiaires ou tout autre comportement byzantin, comme on dit. On voudrait, donc, s'il n'y a pas plus de A participants qui ne suivent pas le protocole, est-ce que les autres peuvent le détecter? Est-ce qu'ils peuvent s'en rendre compte et éventuellement arrêter le calcul? Donc ça, c'est la sécurité active façon détection d'erreurs. Et il y a même, pour certains protocoles, une possibilité de correction d'erreurs. Donc si pas plus de quant à participants sont des attaquants, ne suivent pas le protocole, les autres peuvent en fait les identifier, les participants honnêtes peuvent identifier les participants malveillants et par exemple les exclure du calcul, ignorer leurs actions et continuer quand même le calcul et obtenir quand même le bon résultat à la fin. Alors dans toutes ces dans tous ces critères on suppose que il n'y a pas personne à l'extérieur, en dehors des participants, ne peut écouter les communications entre participants ou les modifier ou injecter des faux messages. D'accord ? Et ça peut se réaliser avec des communications entre participants qui sont chiffrées et authentifiées, par exemple avec un protocole comme TLS, le protocole qui sécurise le web. Et donc, on considère le modèle d'attaque, c'est que les seuls attaquants possibles, ce sont les participants eux-mêmes. D'accord, ceux qui ont accès aux canaux de communication et peuvent voir des messages qui passent ou injecter de mauvais messages. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec notre premier exemple de protocole de partage de secrets. Donc c'est le protocole GMW, d'après les initiales de ses auteurs. Et c'est un schéma très simple où on a initialement que deux participants et ils veulent partager des bits. Donc les secrets, c'est des bits, 0 ou 1. Et l'idée est très simple. Comment, si on a un bit secret B et on veut le partager entre les deux participants et on ne veut pas le révéler à aucun d'entre eux, on tire un bit R au hasard, on donne R à un des participants et B ou exclusif R à l'autre. Et donc, chaque participant n'apprend rien sur le bit B. Le participant numéro 1, il reçoit un bit aléatoire. Et le participant numéro 2, il reçoit un secret B qui est masqué par un bit aléatoire. Et c'est le principe du masque jetable, d'accord ? B ou exclusif R est aussi aléatoire que R. Donc là, le secret, il est partagé. Et les deux participants peuvent le conserver ou éventuellement faire des calculs dessus, comme on va le voir. Et plus tard, ils peuvent se mettre d'accord pour révéler le bit B. Du coup, ils vont échanger leur part du secret, B1 et B2. Et du coup, tous les deux vont avoir à la fois B1 et B2 et peuvent faire le XOR, le OU exclusif de B1 et de B2, qui leur redonne B, parce que c'est R XOR B XOR R, c'est-à-dire R XOR R XOR B. R XOR R, c'est toujours 0. 0 XOR B, c'est B. Et voilà. Et donc, on va noter crochet B, un tel partage d'un bit B. Donc, crochet B, c'est une paire de booléens B1, B2, tel que B, c'est le XOR de B1 et de B2. Donc, il y a deux étapes importantes dans tous ces protocoles. Il y a l'étape de partage d'un secret et l'étape de révélation. Donc là, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est plutôt un tiers, qui ne va pas forcément participer au calcul, mais qui a son secret X et qui veut le partager entre Alice et Bob. Du coup, il en réalise un partage en faisant un tirage au hasard d'un booléen qui va masquer X, et puis il envoie une part à Alice et l'autre part à Bob. Après, les participants du protocole eux-mêmes peuvent injecter leur propre secret. Et par exemple, Alice peut avoir un secret X, en réaliser un partage, garder une partie du partage et donner l'autre à Bob. Et l'autre étape, c'est la révélation. L'étape du protocole dit qu'il faut maintenant rendre public un résultat ou un secret partagé. C'est donc chacun, Alice, qui va communiquer sa part à Bob, Bob qui va communiquer sa part à Alice. Maintenant, les deux participants ont les deux parts, X1 et X2, peuvent faire le XOR, retrouver X, et donc ils ont acquis la connaissance de X. Voilà. Donc c'est vraiment très simple, hein. Je j'avance pas vite, mais il n'y a pas de... En particulier, il n'y a aucune cryptographie compliquée dans cette approche, c'est juste du masquage par des bits aléatoires. Alors, le protocole GMW à proprement parler, donc, qui est dû à Goldreich, Michali et Wigderson en 87, c'est s'appuyer sur cette idée pour faire une évaluation bipartite avec deux participants sécurisés de Z égale F de X et de Y. Donc F, ça va être un circuit booléen avec des portes logiques. X, c'est les secrets d'Alice. Y, c'est les secrets de Bob. Et Z, le résultat va être rendu public à la fin. Donc il y a une phase de mise en commun des secrets. Donc Alice tire des partages de ses propres secrets, Bob des partages de ses secrets à lui. Ils mettent en commun ces partages. Donc ils ont chacun maintenant une part des X et une part des Y. Ensuite, il y a une étape de calcul bipartite, où Alice va calculer une part Z1 du résultat, Bob calculer une part Z2 du résultat, et une passe de sortie où Alice et Bob révèlent Z1 et Z2 et déterminent le résultat final. Alors ici, l'étape de calcul, bien sûr, Alice et Bob vont communiquer pendant ce calcul. On va voir que certaines opérations se font sans communication et d'autres ont besoin de communication. Voilà, donc c'est ça les grandes lignes du protocole. Alors, comment on va réaliser les calculs? Comment on va évaluer le circuit? On a plusieurs types de portes logiques. Voyons voir ce qu'on peut faire. Donc, la première opération, c'est l'addition de deux bits partagés. Donc, c'est la porte XOR, c'est le OU exclusif. Et ça, c'est un calcul facile parce qu'il peut se faire entièrement en local. Imaginez, vous avez deux bits partagés, X, souvent avec deux parts x1, x2, y avec deux parts y1, y2. Alice connaît les parts x1 et y1, et donc elle peut en calculer le XOR, qui est z1. Bob connaît les parts x2, y2, il va calculer le XOR, et appeler ça z2. Et il se trouve que z1, z2, c'est bien un partage de x, XOR, y. Et c'est facile à voir, toujours par les propriétés d'associativité du XOR, puisque Z1, XOR, Z2, c'est bien la même chose que X, XOR, Y. Donc Z1, Z2, c'est bien un partage du résultat attendu, et le calcul a été fait entièrement localement. Alice et Bob n'ont pas eu besoin de communiquer pour le réaliser. Variante, c'est la porte note, la négation d'un bit partagé. Où là, donc Alice connaît une partie x1 du bit et elle va en prendre la négation. Bob, il connaît l'autre partie et il va la garder telle qu'elle. D'accord ? Donc là, on est un peu dissymétrisé. Mais vous pouvez aussi vérifier que z1, z2, c'est bien un partage de non x, puisque z1 XOR z2, c'est non x1, c'est-à-dire x1 XOR 1 XOR x2. C'est-à-dire x1, x2, xor 1, c'est-à-dire x, xor 1, c'est-à-dire non x. D'accord. Et donc là aussi, on a un calcul entièrement local, sans communication. Alors, comme d'habitude, là où les choses se compliquent, c'est quand on veut multiplier. Multiplier deux bits partagés, c'est comme dans les chiffrements homomorphes qu'on a vu. Additionner et multiplier par une constante, c'est toujours facile. Et multiplier de nombres arbitraires, c'est toujours plus difficile. Et on a besoin de multiplier pour implémenter les portes AND et OR. Donc et OU, d'accord. Le E logique, c'est le produit de X et de Y. Et le OU logique, c'est la négation du produit des négations. Et on peut voir assez facilement qu'aucun calcul purement local ne va convenir, ne va produire un partage du produit. Et en particulier, en gros, qu'est-ce que Alice peut faire ? Ben, elle peut multiplier ses deux parts, x1, y1. Bob peut multiplier ses deux parts, x2, y2, mais ce n'est pas du tout un partage de x fois y. Parce que si vous faites... Si vous développez, donc ça c'est le résultat attendu, d'accord, c'est x fois y, et si vous développez ce produit, vous voulez apparaître quatre termes. Il y a deux des termes qu'on peut calculer localement, x1, y1 par Alice, x2, y2 par Bob, et deux termes au milieu qui font intervenir des parts des deux, donc on ne peut pas les calculer sans communication. Et puis, si on dit, ah ben, il suffit que Bob envoie Alice Y2 et que Alice envoie quelque chose à Bob. Oui, là, ma formule n'est pas tout à fait correcte, mais vous avez compris. Bref, si on dit, il suffit que Alice et Bob mettent en commun certaines parts, à ce moment-là, le secret de X et de Y est perdu. D'accord. Ils apprennent tous les deux la vraie valeur de x, la vraie valeur de y, et c'est sans doute pas ce qu'ils veulent. Donc, pour contourner ce problème, nos amis G, M et W, dans leur article de Stock 1987, proposent pour la multiplication d'utiliser un transfert inconscient 1 parmi 4. Alors, le transfert inconscient, c'est un très joli protocole cryptographique dont on parlera davantage la semaine prochaine. Mais donc très brièvement, donc ça s'appelle, dans la littérature anglo-saxonne, ça s'appelle Oblivious Transfer, OT, donc OT. Et à la base, c'est un protocole entre deux participants. Donc il y a Alice qui connaît N valeurs, V1, Vn, des entiers, disons, et Bob qui va choisir une de ces valeurs, c'est-à-dire qu'il va choisir un I entre 1 et N. Et maintenant, Alice et Bob exécutent leur protocole. Et à la fin du protocole, Bob connaît la valeur V indice I. Donc, il connaît la IM valeur, la valeur qu'il a choisie. Alice ne connaît pas le choix qu'a fait Bob. Alice ne connaît pas I. Et Bob n'a rien appris sur les autres valeurs VJ, qui ne sont pas celles qu'il a sélectionnées. Donc ça élimine les deux protocoles triviaux. Il y en a un où Bob envoie I en clair et Alice lui renvoie VI. Bon, Alice a appris I. Et l'autre où Alice envoie toutes les valeurs à Bob, et Bob choisit celle qu'il veut. Là, Bob a appris toutes les valeurs. Et donc, il est possible de réaliser ce transfert inconscient, mais il faut faire un petit peu de cryptographie, et on verra ça au prochain cours. Aujourd'hui, on va juste se servir du transfert inconscient pour réaliser cette multiplication de deux bits partagés. Donc, on a deux bits partagés x et y, et on veut, il faut maintenant calculer un partage du produit. Donc l'idée, c'est Alice, on va dissymétriser un peu le calcul, donc Alice va choisir Z1, va choisir sa part du résultat au hasard. Maintenant, le problème, c'est de convaincre Bob de choisir la bonne part, Z2, qui va faire que Z1 XOR Z2, c'est bien X fois Y. Alors Alice, elle ne peut pas faire ce choix, parce qu'il y a deux inconnus, qui sont les parts X2 et Y2 de Bob, mais ça ne fait jamais que quatre possibilités pour les parts que Bob a, et donc Alice peut tabuler ces quatre possibilités. En fonction des valeurs possibles des inconnus X2, Y2, elle peut déterminer la bonne valeur de Z2. Z2, c'est Z1 XOR le résultat attendu, X fois Y. C'est donc Z1 XOR X1 XOR X2 fois Y1 XOR Y2. Elle connaît toutes les variables là-dedans, sauf X2 et Y2, ça fait que quatre possibilités. Et donc, elle va nous tabuler ça, une table à quatre lignes, qui correspondent aux quatre valeurs possibles de X2, Y2, et à chaque fois, on aura la valeur qui va bien de Z2. D'accord ? Et c'est là qu'un transfert inconscient se produit. Bob va maintenant demander la ligne numéro 2X2 plus Y2 de cette table. Donc 2X2, Y2, se sépare du secret, des secrets, pardon. 2x2 plus y2, ça vous pointe sur la bonne ligne, la ligne qui correspond aux valeurs de x2 et de y2 qui intéressent Bob. Et donc, par transfert inconscient, il va recevoir le z2 correspondant. Et par construction de la table, on a bien z1 XOR z2 qui est x fois y. De plus, Alice ne sait pas quelle ligne Bob a choisi, donc elle n'a rien appris sur x2 et y2. Les secrets de Bob sont bien gardés. Et Bob n'apprend rien sur les autres lignes de la table. Ce qui est important parce que s'il connaissait au moins deux lignes, par exemple, il pouvait faire un XOR pour éliminer Z1 et puis retrouver des choses sur X1 et Y1. Voilà. Donc voilà une manière de réaliser la multiplication de deux bits et qui fait intervenir ce protocole de transfert inconscient qui est un petit peu mystérieux, au moins pour aujourd'hui. Alors, il y a d'autres manières de faire la multiplication, et il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle marche, entre guillemets, à tous les coups, enfin, elle va marcher dans tous les protocoles de partage de secrets qu'on va regarder aujourd'hui. Et elle est due à M. Beaver, qui a publié ça en 1991, donc ça s'appelle le schéma de Beaver, ou les triplets de Beaver. Alors, l'idée des triplets de Beaver, c'est que... plus facile de faire une multiplication si vous connaissez déjà les résultats d'une autre multiplication. Une multiplication qui n'a rien à voir. Donc c'est juste, vous connaissez, vous et les deux participants connaissent des partages de A, B et C, qui sont des booléens, tels que AB, c'est bon, quelconque, aléatoire, et C, c'est le produit A fois B. Et donc l'idée, c'est qu'on a pu préparer à l'avance des triplets de Beaver, comme ça, avant même de commencer le protocole GMW, avant de commencer l'évaluation du circuit. Ça a pu être fait de manière offline, comme on dit. Par exemple, en demandant un tiers de confiance, sachant, vu que c'est fait offline et avant la connaissance des secrets, le tiers, il ne va rien apprendre. Quoi. On lui demande juste de produire des nombres aléatoires qui ont une certaine propriété. Les participants ont pu faire ce précalcul à l'avance par transfert inconscient, d'accord, sachant que comme ça, ils ont plus de temps pour le réaliser, ou par d'autres techniques cryptographiques, je ne vais pas rentrer dedans. Mais donc l'idée à garder en tête, c'est qu'on peut produire à l'avance de tels triplets et faire en sorte que Alice elle est partie numéro 1, donc A1, B1, C1 de ces triplets, Bob elle est partie A2, B2, C2. Alors comment on va utiliser ces triplets ? Bien, l'idée c'est que maintenant à chaque fois que Alice et Bob doivent calculer un partage de X fois Y, ils vont prendre le prochain triplet ABC dans leur liste, et Alice va utiliser A1 et B1, qui sont a priori aléatoires, pour masquer ces parts de X et de Y. Donc, il avait donné à Bob, non pas X1 et Y1, ce qui révélerait complètement les secrets de X et de Y, mais A1 XOR X1, B1 XOR Y1. Donc, c'est encore une fois, c'est du masque jetable, d'accord. Donc, Bob, il apprend rien. Et symétriquement, Bob, il envoie à Alice ses parts, X2, Y2, masquées par A2 et B2. Donc, là non plus, Alice n'apprend rien. En revanche, Alice et Bob, maintenant, ils ont... ils ont les parts de AXOR X et de BXOR Y. Donc, ils peuvent retrouver AXOR X, BXOR Y. Ça va faire deux booléens, D et E, et qui vont permettre à Alice et Bob de calculer chacun leur partie du partage de X fois Y par cette formule. Donc, ZI, c'est D fois YI, XOR AI fois E, XOR CI. Et si vous faites le calcul, vous allez voir que c'est bien un partage de X fois Y, parce que le XOR de Z1 et de Z2, si vous déroulez un petit peu, vous voyez que c'est le produit XY, XOR, le produit AB, XOR C, et par hypothèse, C, c'est le produit de A fois B, donc ce terme disparaît, et vous retrouvez X fois Y. D'accord ? D'une certaine manière, à partir de cette multiplication connue, que C égale A fois B, on a réussi à déduire quelque chose qui est égal à X fois Y. Et donc, il y a eu une étape de communication, ici, et le reste du calcul est local. Donc ce protocole, on l'a vu pour deux participants, et en fait il s'étend à un nombre arbitraire de participants, au moins les aspects partage et révélation. Donc l'idée, c'est que pour partager un bit B entre n participants, on l'écrit comme le XOR de n booléens, et chaque booléen c'est une part détenue par un participant. Et par exemple, si c'est le participant 1 qui souhaite de partager le secret X, ben il peut tirer les parts B2, BN au hasard, les envoyer aux participants de 2 à N et conserver le XOR de X et de B2, B3 jusqu'à BN, ce qui donne bien un partage valide de X. Et de même, pour révéler un partage, chaque participant envoie sa part au N-1 autre participant, donc ça fait un peu beaucoup de communication, mais à la fin, tous les participants connaissent toutes les parts et peuvent faire le XOR et retrouver le B. Et pour ce qui est de l'arithmétique, les calculs locaux comme le XOR et le NOT se font point à point, comme précédemment. En revanche, la multiplication avec transfert inconscient devient très compliquée, et la multiplication avec triplet Beaver se fait, s'étend aussi naturellement. Voilà. Quelle est la sécurité de ce protocole ? On a vu qu'il était correct. Si tous les participants suivent les règles de calcul, on évalue bien correctement toutes les portes du circuit. Mais quid de la sécurité ? Alors, on va supposer la sécurité du protocole de transfert inconscient utilisé. Si on en utilise un. Regardons un peu la sécurité passive et active. Donc, la sécurité passive, c'est est-ce qu'il est possible pour certains participants de se mettre ensemble et de retrouver les secrets des autres ? Et alors la réponse est non, parce que le seul moyen de retrouver un bit partagé B, c'est que tous les participants divulguent leur part. D'accord ? S'il n'y a que N-1 participant dans votre collusion, ils vont rien apprendre sur le bit, la dernière part qui leur manque, et donc rien apprendre sur le bit partagé B. Donc là, on a une très forte résistance aux attaques passives. En revanche, on n'a aucune résistance aux attaques actives. Si un participant décide de produire un BI qui est faux, la négation du bit qu'il était censé produire d'après le protocole, le résultat du calcul est faux et aucun participant honnête ne va pouvoir le détecter. Et puis, c'est aussi un protocole fragile, au sens où il n'y a aucune robustesse. Si un participant tombe en panne ou si sa connexion réseau coupe, il y a une des parts du partage est perdue et il n'y aura aucun moyen de retrouver le secret partagé. L'actualité nous donne un exemple amusant de ça. J'aime beaucoup quand l'actualité écrit les blagues d'un cours que j'ai préparé depuis plusieurs mois. Vous vous souvenez des protocoles de vote électronique dont a parlé Pierrick Gaudry? Donc il y avait Belenios, qui est le protocole que lui et ses collègues développent à Nancy, et puis un ancêtre qui est Helios, développé aux États-Unis. Et donc Helios a été utilisé récemment par l'Association des cryptographes, la Société savante des cryptographes, l'IACR, International Association for Cryptography Research, pour conduire une élection. Et donc ils utilisent Helios. Et la dernière étape du procédé de Helios, c'est de déchiffrer le résultat final avec une clé secrète qui a été partagée à l'avance entre trois trustees, trois membres de confiance de l'association. Et le partage utilisé, c'est un partage de type GMW, je crois, ce qui fait que si un des trois trustees perd sa clé, le résultat du vote est perdu. Et que croyez-vous qu'il arriva? Un des trois trustees, en croyant effacer une clé de test, a effacé sa part de la clé pour déchiffrer le résultat de l'élection. Et donc, le résultat de l'élection ne sera jamais connu, et il va falloir refaire l'élection. Peut-être avec un meilleur protocole comme Belenios, qui lui a un partage de clés secrètes plus résistant, où par exemple 3 trustees sur 5 suffisent pour retrouver, pour déchiffrer. Bon. Voilà. Alors l'alternative, oui, c'est d'imprimer sa part, c'est d'écrire sa part du secret sur un post-it et de le mettre sur son écran, mais bon. Mais on va voir qu'on peut faire mieux cryptographiquement. Et qu'on peut faire des partages K parmi N, où, donc les secrets sont partagés entre N participants, mais il suffit d'avoir K par, K plus petit que N, pour pouvoir divulguer, pour pouvoir révéler les secrets ou faire le déchiffrement final. Alors, le premier partage K parmi N qu'on va regarder, c'est un partage par réplication, où une même part va être donnée à plusieurs participants. Comme ça, ça va mettre un peu de redondance dans le système. Donc là, on va le faire dans un cas simple. On va avoir 3 participants, et chacun 3 participants. Le secret est découpé en 3 parts. Donc encore une fois, un bit B va être le XOR de 3 parts. Et puis Alice va détenir 2 départs, B1 et B2. Bob va détenir 2 départs, B2 et B3. Et Charlie, le troisième participant, va détenir B3 et B1. Et on voit bien qu'il suffit que 2 participants mettent en commun leur part pour retrouver le secret. Par exemple, si Alice et Bob se mettent d'accord, ils ont B1 et B3 et ils ont B2 en double. Donc c'est bon, ils ont les 3 parts. Même chose pour Alice et Charlie ou pour Bob et Charlie. Du coup, on a un protocole qui est beaucoup plus résistant. Il résiste à la panne d'un participant sur les 3, d'un trustee un peu distrait par exemple. Et bien sûr, la sécurité passive est plus faible que dans le protocole précédent. Un seul participant n'apprend rien sur le secret, mais une collusion de 2 participants, bien sûr, par construction, est capable de révéler le secret. Sinon, on n'aurait pas la robustesse. Donc, pourquoi un seul participant n'apprend rien sur le secret? Ben, parce qu'il lui manque toujours une part. Alice, il lui manque B3, Bob, il lui manque B1, et Charlie lui manque B2. Et on peut même aller un cran plus loin, en sécurité active, on peut détecter si un participant a produit des résultats faux, parce qu'il va y avoir une incohérence. Par exemple, le B2 calculé par Bob, ce ne sera pas le même que le B2 calculé par Alice, et ça, on va s'en rendre compte quand, si tous les participants révèlent leur part, on va bien s'en rendre compte. En revanche, si 2 participants sont en collusion pour produire des résultats faux, ça va passer inaperçu. Par exemple, si Alice et Bob se mettent d'accord pour produire un B2 qui est faux, Charlie ne va pas s'en rendre compte au moment où Alice et Bob vont révéler leur part. Voilà, donc on a un peu de sécurité active, un peu moins de sécurité passive que précédemment, et plus de robustesse. Alors, comment on fait de l'arithmétique sur des... Ah non, pardon, alors comment on partage? Ben là, enfin, on l'a déjà dit, mais donc là, je vous montre comment Alice, Bob et Charlie peuvent mettre en commun chacun leur secret. Donc X pour Alice, Bob, Y pour Bob, Charlie, Z pour Charlie. Ben, chacun détermine un partage sous forme d'un XOR de trois termes. Et puis, il y a une jolie petite communication pour que les parts 1 et 2 aillent chez Alice, 2 et 3 chez Bob, 3 et 1 chez Charlie. Bien, maintenant, comment on calcule avec tout ça? Ben, donc l'addition, le XOR, c'est comme précédemment, on additionne les parts localement, point à point. Donc Alice a deux parts de X, deux parts de Y, ça va donner deux parts du produit, de la somme, pardon, X, XOR, Y. Même chose pour Bob, même chose pour Charlie. Et on voit bien que si X, c'était bien le XOR des 3XI et Y, le XOR des 3YI, le résultat, c'est un partage redondant, bien formé, de X, XOR, Y. Donc très facile. Et pour la multiplication, là, il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Donc on a déjà vu deux, il y a le transfert inconscient et il y a l'utilisation de triplets de Beaver, donc de produits précalculés, produits aléatoires mais précalculés à l'avance. Et là, on a parce qu'on a plus de redondance, en fait, parce que chaque participant a plus d'informations, on a un nouveau protocole qui apparaît pour la multiplication. L'idée, c'est que les participants, Alice, Bob, Charlie, ils vont faire des produits locaux de certaines de leurs parts. Donc Alice, elle va multiplier x1 par y1, x1 par y2, x2 par y1, mais pas x2 par y2, et elle va faire le XOR de ces trois quantités. Bob, il va faire la même chose avec x2, y2, x2, y3, x3, y2. Et Charlie, il va faire la même chose avec x3, y3, x3, y1, x1, y3. Donc ils ont chacun maintenant un bit P, Q et R qui vont partager. Donc ils vont, Alice va tirer un partage de son bit P, envoyer les morceaux qui va bien à Bob et Charlie. Bob va faire la même chose pour Q, Charlie va faire la même chose pour R. Et donc à la fin, les trois participants, ils connaissent un partage de P, un partage de Q, un partage de R. Ils peuvent en faire le XOR, l'addition, par addition locale. Et il se trouve que c'est un partage du produit X fois Y. Parce que, rappelez-vous, X c'est le XOR des 3XI, Y le XOR des 3YI. Vous développez, vous avez une somme de 9 produits. Et il se trouve que 3 de ces produits, c'est le P qu'a calculé Alice, 3 c'est le Q qu'a calculé Bob, et 3 autres, c'est le R qu'a calculé Charlie. Donc, on a suffisamment de redondance pour que le produit puisse s'exprimer comme une combinaison linéaire de produits locaux, de produits d'informations que chaque participant détient en privé. Voilà. Alors, c'est pas mal comme type de partage, c'est partage répliqué, et on peut les faire pour un plus grand nombre de participants, avec plus ou moins de redondance. Le problème, c'est qu'ils deviennent vite assez gros. Donc là, vous avez vu que on a trois participants, mais il y a six parts. Et chacun doit faire des calculs sur deux parts. Donc chacun fait deux fois plus de calculs que dans un protocole comme GMW. Et donc là, on va voir un protocole qui est un peu intermédiaire entre les deux, au sens où il a de la redondance, et il a de la robustesse, et pourtant, chaque participant ne détient qu'une part. Et c'est donc le partage de Shamir, du nom de son inventeur, Adi Shamir, c'est le S de RSA. C'est en fait très inspiré par les codes de Reed-Solomon, pour ceux d'entre vous qui connaissent les codes correcteurs d'erreurs. Vous allez retrouver des choses extrêmement familières. Donc, dans cette approche, alors on ne travaille pas sur des booléens, on a besoin de travailler sur les éléments d'un corps fini, d'ordre Q, et Q doit être strictement plus grand que le nombre de participants. Donc c'est pour ça que Q égale 2, le corps des booléens, ça ne suffit pas. Par exemple, vous pouvez travailler dans Z sur PZ où P est un entier, premier, pardon, P est un nombre premier. Bien, alors, comment est-ce qu'on partage un secret X? Eh bien, on choisit un polynôme P de degré T, strictement plus petit que N. Donc T, c'est ce qui va nous donner le degré de redondance. Donc un polynôme P de degré T, strictement plus petit que N. Et le coefficient de ce polynôme, il est forcément égal à X au secret. Les autres coefficients sont choisis au hasard dans le corps fini. Et maintenant, les parts, ça va être les valeurs de ce, les n parts, ça va être les valeurs de ce polynôme en n points, typiquement 1 jusqu'à n. Et donc le secret, lui, c'est la valeur du polynôme en 0, puisque c'est le coefficient constant. Voilà. Et donc maintenant, on a les n parts et elles vont être distribuées aux n participants. Maintenant, comment est-ce qu'on retrouve le secret à partir des n parts ? Donc rappelez-vous, les n parts, c'est les valeurs d'un certain polynôme P que personne ne connaît. Au point 1 et n, le polynôme il a le degré T et le secret c'est P en 0. Eh bien, l'observation, c'est qu'il suffit de connaître T plus une part pour reconstituer P. Parce que connaître T plus une part, c'est connaître T plus un point sur la courbe de P. D'accord ? Par exemple, celui-là, celui-là, celui-là. Et or, là, vous voyez bien que c'est une parabole, donc T égale 2. 3 points sur une parabole, ça définit entièrement la parabole. D'accord ? De manière plus générale. T plus un point sur un polynôme de degré T, ça détermine le polynôme P entièrement. Et du coup, le secret, une fois qu'on a retrouvé le polynôme, on a retrouvé le secret P de 0. Et il a suffi de connaître T plus une part sur les N. Alors ça peut sembler compliqué là, de retrouver le polynôme P pour ensuite l'évaluer en 0. En fait, on peut voir très facilement que P de 0, c'est une combinaison linéaire des parts dont on dispose, des YI dont on dispose, et c'est une combinaison linéaire avec les coefficients de Lagrange, les lambda J qui sont ici, et qui sont uniquement des fonctions des différentes abscisses XI des points. D'accord ? Donc il y a cette magie des coefficients de Lagrange qui font que, en fait, toutes ces opérations polynomiales qu'on a compliquées, c'est juste des combinaisons linéaires. Voilà. Donc, quelles propriétés de sécurité ça nous donne ? Donc, ça nous donne d'abord une excellente propriété de robustesse, qui est que T plus une part parmi N suffisent pour reconstruire le secret. Ça nous donne de la sécurité passive, au sens où une collusion d'O plus T participants ne peut pas retrouver le secret. Si vous avez un polynôme inconnu de degré T, vous connaissez T points, la valeur en 0 est toujours T points qui ne sont pas 0. La valeur en 0, elle est non déterminée, elle peut être n'importe quoi, vous pouvez toujours faire passer un polynôme de degré T plus 1 par n'importe quelle valeur en 0 et les T valeurs que vous avez déjà. Donc, sécurité passive jusqu'à T participants. Et alors pour la sécurité active, ça on reviendra là-dessus à la fin du cours, on a des codes, un code de Reed-Solomon qui est un code de détection et de correction d'erreurs. Et donc on peut corriger jusqu'à détecter jusqu'à n-t-1 erreur, donc jusqu'à n-t-1 participant malveillant, et corriger jusqu'à la moitié, donc n-t-1 sur 2 erreur, et ça nous donne des propriétés de robustesse, de résistance aux attaques actives tout à fait intéressantes. Mais on reviendra là-dessus plus tard parce que c'est un peu délicat. Pour le moment, voyons un peu comment on peut calculer avec ces partages de Shamir. Alors, donc essentiellement, on veut évaluer des polynômes, d'accord ? C'est un peu la généralisation des circuits. Donc, on veut faire des additions, on veut faire des produits par des constantes et on veut faire des produits de nombres secrets. Donc, additionner deux nombres secrets, deux partages, en fait, c'est additionner point à point les parts dont on dispose. Parce que, si on a un partage de Shamir pour A et un partage de Shamir pour B, ça veut dire qu'on a deux polynômes, il y en a un en bleu ici qui est pour A et en rouge ici pour B. Les parts, c'est les valeurs de ces polynômes en 1, 2, n. Le secret, c'est les valeurs en 0. Maintenant, si on fait la somme de ces deux polynômes, d'accord, ça revient à faire la somme des valeurs pour les échantillons et pour le secret. Donc la somme des deux polynômes, c'est bien un partage correct. Et donc les parts, c'est la somme des point à point des parts. Et le secret, c'est bien la somme des secrets. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, le calcul est entièrement local. Chaque participant se contente d'additionner ses parts de A et de B. Et de même, on peut faire l'addition d'une constante et la multiplication par une constante. Donc si vous avez un partage d'un secret A correspondant à un polynôme P, ben, si vous ajoutez la constante K à chacun des échantillons A1, AN, vous avez bien un partage de A plus K, ça correspond au polynôme P plus K, d'accord ? Donc il y a une constante K qui s'ajoute à toutes les évaluations du polynôme. Et puis, si vous multipliez vos parts par k, vous obtenez un partage de k fois a, et le polynôme, c'est k fois p. Bon, et encore une fois, c'est complètement trivial, mais c'est sympathique parce que le calcul est fait purement localement. Arrive la multiplication, qui est toujours plus compliqué, donc la multiplication de deux partages de Shamir. Donc on a des partages pour A et pour B, donc ça veut dire qu'on a deux polynômes, P et Q. A et B, c'est les valeurs de P et de Q en 0, et puis les parts AI, c'est les valeurs de P en 1N, BI, c'est les valeurs de Q en 1N. P et Q sont de degré T. Alors on pourrait se dire, ben c'est facile, il n'y a qu'à multiplier AI par BI localement, et c'est vrai qu'on obtient comme ça un ensemble de N points, I, AI, BI, qui sont sur la courbe du polynôme P fois Q. Et P fois Q en 0, c'est notre produit. Est-ce qu'on a gagné ? Non, parce que le polynôme P fois Q, il est de degré beaucoup trop élevé. Il est de degré 2T. Donc il n'est pas du tout déterminé par ces N points. D'accord ? Et donc, ces N points ne suffisent absolument pas à retrouver AB, le produit qui nous intéresse. Il y a un polynôme de degré t qui passe par ces n points. Il y a un polynôme qui passe par ces n points, mais il n'est sûrement pas du bon degré et il ne va rien nous dire sur AB. Bien, alors là, on va supposer que t n'est pas trop grand, donc t est strictement plus petit que n sur 2. Les deux t premiers participants peuvent partager les produits de leurs coefficients. Donc chacun des le participant i, il fait ai fois bi, il prépare un partage, il envoie les parts à tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, ça revient en fait pour chaque participant i entre 1 et 2t à avoir trouvé un polynôme r de degré t, tel que RI en 0, c'est le produit local AI par BI, et puis ça a été distribué, donc le participant J connaît la valeur de RI en J pour tous les I. D'accord ? Et ça, ben, ça suffit pour que les N participants reconstruisent localement un partage du produit, un partage C1-CN, du produit A fois B. Et alors encore une fois, c'est un coup de baguette magique de Lagrange. Donc le coefficient Cj, ça va être la somme des valeurs en J des polynômes Ri, multiplié par le coefficient lambda I de Lagrange. Alors, pourquoi ça marche ? Et ce calcul, il peut être fait de manière purement locale, puisque Ri de J, c'est la connaissance du participant numéro J. Alors pourquoi ça marche ? Ben, il faut dérouler un petit peu de calcul. Je ne sais pas si je vais vous lire tout ça, mais c'est juste pour référence. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Si maintenant on considère le polynôme R, qui est la somme pondérée des polynômes Ri, pondérée par les fameux coefficients de Lagrange Li, lambda i, c'est bien un polynôme de degré t, puisque c'est une somme de polynômes de degré t. Le coefficient Cj qu'on a calculé précédemment, c'est la valeur de R au point J. Et puis la valeur de R au point 0, eh bien, par définition, c'est le produit des. Pardon, c'est la somme des Ri de 0 lambda i, c'est-à-dire des Ai, Bi, lambda i. Et ça, c'est aussi la somme des Pq de i, lambda i. Et vu que la somme va de 1 à 2t, ça veut dire qu'on a en fait, et que PQ de degré 2t, ben c'est une formule d'interpolation de Lagrange pour PQ de 0. qui est le produit A fois B qu'on cherchait. Donc, miracle, on a obtenu un partage de AB qui est valide. Donc, en mettant en commun des partages de produits locaux et en faisant une combinaison linéaire ensuite. Alors là aussi, on peut choisir d'utiliser des triplets Beaver à la place. Donc si les participants ont reçu à l'avance des partages UVW, avec UEV aléatoire et W qui est le produit de U et de V, alors on a un algorithme qui est plus facile et qui ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà vu au niveau des bits. Donc pour calculer le produit AB, les participants y calculent localement A plus U et B plus V. D'accord, chacun a une part de ces sommes, il les échange, il les révèle, du coup, en faisant le calcul avec les coefficients de Lagrange, chaque participant connaît alpha, qui est A plus U, bêta, qui est B plus V, et ce sont donc les valeurs secrètes, les entiers secrets AB, masqués par des U et des V aléatoires. Et maintenant, les participants peuvent calculer localement cette combinaison linéaire, donc W plus alpha B moins bêta U, et on peut voir que c'est bien un partage du produit AB, parce que donc C, c'est W, c'est-à-dire UV, plus AB plus UB, moins BU moins VU, et tout ça s'annule joliment pour nous laisser seulement le terme AB. Voilà. Donc encore une fois, en s'appuyant sur une autre multiplication, et en faisant des décalages, on peut réaliser la multiplication qui nous intéresse. Alors maintenant, on va généraliser un petit peu. On a vu au moins trois formes différentes de partage jusqu'ici. Le partage de bits GMW, le partage répliqué 2 sur 3, et puis les partages de Shamir. Et en fait, ces trois formes de partage, c'est des cas particuliers d'une construction générale à base d'algèbre linéaire, très simple. Donc il y aura quelques matrices et quelques vecteurs. Mais c'est pas compliqué. Donc, on appelle cette famille de partage, on appelle ça donc les LSSS, Linear Secret Sharing Scheme, les schémas de partage, schéma linéaire de partage de secrets. Et donc, c'est quoi un LSSS? Donc, c'est défini par une matrice, un vecteur et une fonction. Donc, on a une matrice M de dimension M croix D, où M, ça va être le nombre de parts qu'on réalise. V, un vecteur de dimension D, et une fonction phi qui va nous dire comment les parts sont distribuées sur les participants. Donc, étant donné une part dans un M, à quel participant dans un N elle va? Et donc un participant peut finir par détenir plusieurs parts. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, il faut juste que la fonction soit surjective pour qu'aucune part ne se perde. Et donc, comment on fait pour partager un secret S? Eh bien, on tire un vecteur K aléatoire tel que S est le produit scalaire de V et de K. Et vous allez voir ce que ça veut dire sur les exemples. Donc S maintenant ça va être une combinaison linéaire donc des coefficients de V et des coefficients de K et les coefficients de K certains sont aléatoires et d'autres sont forcés pour que le produit scalaire tombe juste. Maintenant on va calculer nos M parts S1, Sm simplement en appliquant la matrice M à ce vecteur K donc le résultat c'est un vecteur colonne à M éléments. Et pour chacune des parts S1, Sm, donc pour chaque part Si, on la donne aux participants numéro phi de I. Donc ça, c'est l'étape de répartition des parts entre les participants. Alors, vite un exemple. Le partage additif complet, donc par exemple GMW, c'est un LSS trivial. Donc la matrice, elle a comme dimension le nombre de participants. C'est juste une matrice diagonale. Le vecteur V, c'est juste le vecteur unitaire. La fonction phi, c'est juste l'identité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire choisir K tel que S égale V scalaire K? C'est choisir K tel que S est la somme des composantes de K. D'accord? Et donc ça, c'est les parts et ces coefficients aléatoires K1, Kn, c'est exactement les parts, puisque quand vous appliquez la matrice diagonale sur ce vecteur, vous retrouvez ce vecteur. Et donc les parts, c'est K1, Kn, et chaque part, Ki, est distribuée aux participants I. Et voilà, donc c'est notre partage additif complet. Maintenant, si on regarde le partage de Shamir, c'est plus intéressant. Donc notre matrice, maintenant, elle a T plus une colonne, et elle a N lignes. Donc T, c'est le degré des polynômes qu'on utilise, N, c'est le nombre de participants. Et la matrice, en fait, c'est la matrice qui va nous permettre d'évaluer un polynôme, étant donné ses coefficients, au point 1, 2, 3, N. Et donc, elle contient les puissances de 1, jusqu'à t, les puissances de 2 jusqu'à 2 puissance t, les puissances de n jusqu'à n puissance t. D'accord ? Notre vecteur v, c'est juste 1 sur la composante 0 et 0 ailleurs. Notre fonction phi, c'est l'identité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire partager s ? Un secret s, ben, on choisit un vecteur k, tel que s, c'est v scalaire k. Donc, vu la forme de v, forcément, le coefficient 0 de k, ça doit être le secret s, et les autres, k1, T sont aléatoires, enfin sont non contraints, donc on va les choisir aléatoirement. Et K, en fait, ce sont les coefficients de notre polynôme P qui est sous-jacent au partage de Shamir. Et donc on a bien S qui est le scalaire de V et de K, et M appliqué à K, si vous faites le calcul, vous allez voir que c'est le vecteur des valeurs de P en 1, 2, N. Donc on distribue la ième part, qui se trouve être P de I, au participant numéro I, et on a un partage de Shamir. Voilà. Et troisième et dernier exemple, notre partage répliqué 2 parmi 3. Donc on peut le voir aussi comme un LSSS. L'idée, c'est qu'on va avoir en fait 6 parts, moralement, même si elles vont être égales 2 à 2. Et donc ces 6 parts, elles sont obtenues par cette jolie matrice 3 fois 6. Parce que donc, si vous écrivez S sous la forme d'un produit scalaire VK, V c'est le vecteur identité. Donc S, il va s'écrire sous la forme d'une somme de 3 KI, aléatoire. Et si vous appliquez M à ce vecteur K, si j'ai bien fait mon calcul, vous allez obtenir le vecteur colonne K2, K3, K1, K3, K1, K2. Donc ça nous fait une espèce de permutation et de duplication de nos trois coefficients. Et maintenant, la fonction phi, elle est non triviale. La fonction phi, c'est I sur 2, arrondi au-dessus. Et donc, ça veut dire que les parts 1 et 2, c'est-à-dire K2 et K3, vont aller au participant numéro 1. Les parts 3 et 4, c'est-à-dire K1 et K3, vont aller au participant numéro 2. Et les deux dernières parts, les deux derniers éléments de ce vecteur, K1 et K2, vont aller à participant numéro 3. Donc on a bien notre partage répliqué 2 parmi 3. Et puis, alors comment est-ce qu'on révèle le secret à partir d'un partage de ce type ? Donc là, je vous ai rappelé comment on code un secret, d'accord, sous forme de par S1 SM. Maintenant, comment est-ce qu'on retrouve le secret à partir de ces par S1 SM ? L'idée, c'est en fait de mettre en évidence une combinaison linéaire des lignes de la matrice M qui est égale au vecteur V. Ça revient en fait à trouver un vecteur X de dimension D, tel que la transposée de M appliquée à X, ça vous retrouve le vecteur V. Et si, une fois que vous avez trouvé ce X, et ça, le calcul peut être fait à l'avance, hein, il est complètement indépendant des parts S1, SM. Donc, une fois que vous avez ce vecteur X, ben, le décodage, c'est juste faire le produit scalaire de X et des différentes parts. Et donc là encore, si mes souvenirs d'algèbre linéaire sont bons, ça revient en fait à appliquer donc le vecteur colonne X, vu qu'on a une matrice, à la matrice M appliquée au vecteur K, puisque c'est ça, S1, SM. Et c'est la même chose, en fait, que d'appliquer la transposée de ça à K. La transposée de ça, c'est la transposée de V. Transposée de V appliquée à K, c'est le produit scalaire de V et de K, c'est S. Voilà. Donc rien de très compliqué. Et alors, ce qui est joli, c'est que si votre, alors, si votre partage est non redondant, par exemple, si c'est le partage additif complet, ben, il n'y a pas de choix pour X. Forcément, ça va être un partout, puisqu'il faut faire la somme de toutes les parts. En revanche, si votre partage est redondant, vous avez le choix entre plusieurs X, et, y compris des X qui ont des coefficients 0. Et les coefficients 0 dans un X, ça correspond à des parts qu'on n'a pas besoin de connaître pour retrouver le résultat final. Donc ça peut être des parts qui ont été perdues par distraction d'un des participants. Et voilà. Et donc par exemple, si on regarde le partage de Shamir, avec donc des polynômes de degré 2 et 4 participants, donc ça veut dire que 3 parts suffisent à retrouver le secret. Et en fait, on voit apparaître 4 x possibles qui ont chacun un coefficient nul. Et donc, par exemple, xi, j'espère ne pas m'être trompé dans mes calculs une fois de plus, xi qui a le coefficient 0 pour la première part du secret, et donc, en fait, il a besoin de connaître que les parts numéro 2, 3 et 4 pour retrouver le secret. x2, ben, c'est la même chose, il peut se passer de la deuxième part, x3 de la troisième part, et x4 de la quatrième part. Voilà. Alors, comment on fait de l'arithmétique sur ces fameux partages LSSS ben, ça généralise ce qu'on a vu précédemment. Donc l'addition, ça se fait par addition locale de chaque part, d'accord, par linéarité de toute la machinerie, ça va bien vous calculer un partage de l'addition. Même chose pour la multiplication par une constante. Vous faites localement multiplier toutes les parts par la constante, et là encore une fois, par linéarité, c'est immédiatement correct. Et alors pour la multiplication générale, donc il y a plusieurs approches possibles. Donc certains LSSS se prêtent à ce qu'on appelle les produits de Schur. Donc les produits de Schur, c'est former des produits locaux, des parts qu'on connaît, puis faire des combinaisons linéaires, les révéler à tout le monde, refaire une combinaison linéaire. Donc ça revient à faire une combinaison linéaire de produits locaux. Et c'est possible pour certains LSSS. On a vu pour Shamir, si 2t est strictement plus petit que n. On l'a vu pour la réplication 2-3. Mais on a vu aussi que ce n'était pas possible pour le partage additif complet, le GMW. On peut toujours utiliser les triplets de Beaver pour tous les LSSS. D'accord. Et il y a un troisième algorithme que je n'ai pas eu le courage de vous présenter, qui est le produit de Damgård-Nielsen, mais vous pouvez le trouver dans les références qui seront à la fin du cours. Voilà. Et maintenant, bah pour finir, je voudrais juste revenir un peu sur cette question de résistance aux attaques actives dont on a parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe si certains participants produisent volontairement des résultats faux, donc ne suivent pas le protocole, mais injectent des résultats intermédiaires faux dans le protocole? Alors, ils peuvent avoir deux motivations. Il y en a une qui est, déjà, de saboter le résultat final. Peut-être qu'ils n'ont juste pas envie que le résultat final soit correct. Ou peut-être même d'influencer le résultat final pour qu'ils se mettent à refléter plus de choses sur les secrets des participants honnêtes. Bon. Alors, est-ce qu'on peut résister à ça? On va revenir sur les partages de Shamir, parce qu'ils ont de très jolies propriétés. Rappelez-vous, un partage de Shamir, c'est un partage redondant. Donc, par exemple, ici, j'ai un polynôme de degré 2, donc juste une parabole, et sur laquelle j'ai 5 parts. Donc, j'évalue en 5 points. Et vous voyez que là, avec les 5 points qui sont là, les 3 bleus et les 2 rouges, j'ai aucune parabole qui passe par les 5 points. Donc mon partage, il est erroné. D'accord, il y a au moins une valeur, une des parts qui a été corrompue. Alors ça peut être une erreur de calcul, hein, des participants, il y a son processeur qui surchauffe, mais ça peut être aussi le signe d'un participant malveillant, donc d'une attaque active. Et donc, ça correspond aux capacités de détection et de correction d'erreurs des codes de Reed-Solomon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tel code, et donc un partage de Shamir, peut détecter jusqu'à n-t-1 erreur. Donc ici, on a n égale 5, t égale 2, donc on va pouvoir détecter jusqu'à 2 erreurs. C'est l'exemple qui est donné ici. En revanche, s'il y avait 3 erreurs, il se pourrait que tout ça soit quand même sur une parabole. Donc on peut détecter un certain nombre d'erreurs, et la détection, en fait, elle est très simple. Il ne s'agit pas d'essayer de reconstruire des polynômes, etc. On peut la faire en précalculant ce qui s'appelle la matrice de parité H, qui dépend uniquement des paramètres du partage, des paramètres du code. Et c'est une matrice telle que si vous l'appliquez aux n valeurs du partage, elle va être. Si les n valeurs sont correctes, vous devez obtenir 0 de vecteur nul. Et donc, si vous obtenez un vecteur non nul, c'est que le partage est erroné. Et après, il y a une petite probabilité pour que vous obteniez quand même un vecteur nul, mais. Puisqu'on est dans un corps fini. Excusez-moi, je retire ce que je viens de dire. Je crois que ce test est exact tant qu'il n'y a pas plus de n-t-1 erreur. Et on peut aussi corriger jusqu'à la moitié de ce nombre d'erreurs. Et alors, naïvement, ça pourrait se faire en énumérant des sous-ensembles de cardinal n-t-1 sur 2 qui ne contiennent pas d'erreurs, qui passent la matrice de parité correspondante. Ça risque d'être un peu coûteux d'énumérer toutes ces possibilités. Et en fait, il y a un algorithme tout à fait efficace qui s'appelle l'algorithme de Berlekamp-Welsh. Et c'est cet algorithme qui est utilisé pour, par exemple, pour la correction d'erreurs dans les CD, les DVD, un certain nombre de protocoles réseau. Voilà, donc c'est des algorithmes extrêmement efficaces. Alors, est-ce que ça veut dire que notre schéma de partage de Shamir, il est vraiment résistant aux attaques actives? Alors, on va se mettre dans un scénario où on a grand A participants malveillants. Ils ne sont pas assez nombreux pour révéler les secrets. Donc, grand A doit être inférieur ou égal à T, parce que sinon, on a tout perdu. On a perdu complètement la sécurité. Donc, ils ne sont pas capables de révéler les secrets, mais ils vont quand même essayer de perturber le protocole. Alors, on va faire une hypothèse qui n'est pas forcément vraie. Donc, ces participants malveillants, ils peuvent bien sûr modifier leur part des partages, mais ils peuvent faire n'importe quoi. Quand on leur dit de faire l'addition de deux parts de leur partage, ils peuvent produire zéro à la place ou faire la soustraction. Donc, ils sont complètement maîtres de leur part des partages, mais supposons qu'ils n'ont aucune influence sur celle des participants honnêtes. À ce moment-là, on a donc des capacités de détection de l'attaque. Si le nombre d'attaquants est inférieur ou égal à n-t-1, au moment où les n participants vont révéler leur part, ils vont pouvoir tous faire cette vérification. Et les participants honnêtes, ils vont se rendre compte que c'est différent de zéro et que donc il y a eu une attaque, une corruption du partage. Et donc ce scénario, il peut toujours être réalisé tant que A est strictement plus petit que N sur 2. Il suffit de bien choisir le paramètre T de redondance, de l'ordre de N sur 2, et ça vous donne donc une possibilité, donc une sécurité active de type détection des attaques, tant que il y a une minorité de participants malhonnêtes et une majorité honnête. Et on peut aller même plus loin, toujours avec les capacités des codes de Reed-Solomon, qui est que si votre nombre d'attaquants est inférieur ou égal à n-1 sur t sur 2, non seulement les participants honnêtes peuvent détecter l'attaque, la corruption, mais ils peuvent même identifier les attaquants et continuer le calcul en ignorant complètement les résultats produits, les valeurs de part produites par ces attaquants. D'accord ? Donc c'est vraiment un moyen de les sortir complètement du calcul. Et ça, donc, cette condition, elle peut toujours être réalisée tant que A, le nombre d'attaquants, est strictement plus petit que N sur 3. en prenant encore une fois t de l'ordre de n sur 3. Inférieur à n sur 2 ou inférieur à n sur 3, c'est des caractéristiques typiques d'algorithmes distribués, d'accord, en particulier les algorithmes de consensus distribué. Donc on sait qu'on peut réaliser le consensus distribué même avec des participants malhonnêtes, des participants byzantins, pourvu que le nombre de participants malhonnêtes soit qu'il n'y ait pas plus d'un tiers de participants malhonnêtes. D'accord. Et donc c'est amusant et pas complètement surprenant de retrouver exactement les mêmes arguments ici. Le calcul multipartite sécurisé est un algorithme distribué où à la fin on veut un certain consensus sur le résultat final du calcul. Bon, mais je vous ai fait une hypothèse. Les participants malveillants ne peuvent modifier que les parts des partages, mais pas celles des participants honnêtes. Et cette hypothèse, elle n'est pas toujours vraie dans les étapes des protocoles qu'on a vues. Elle est vraie pour les opérations locales, l'addition, la multiplication par une constante. Chaque participant modifie uniquement sa part et ne reçoit, n'est influencé par aucun autre participant. Mais ce n'est pas vrai, par exemple, lorsqu'un participant prépare et diffuse un partage X, un crochet X d'une valeur X qu'il choisit. Si c'est un participant malveillant, malhonnête, il va pouvoir diffuser un partage bien formé, qui va passer le code correcteur d'erreur, un partage bien formé d'un résultat intermédiaire qui n'est pas le bon. Et donc, il va faire dérailler le protocole. Et ça arrive typiquement quand on fait de la multiplication. Vous vous souvenez de la multiplication de partage de Shamir, donc cette approche des produits de Shur, où les participants localement font certains produits de leur part, et puis les diffusent, font des combinaisons linéaires pour masquer un peu, et les diffusent aux autres. Et donc quand ils diffusent aux autres, un participant malveillant, il va très bien pouvoir diffuser le mauvais résultat, un résultat faux. Et du coup, le résultat de la multiplication va être faux, mais il n'y aura aucune erreur de codage. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ça? Il y a deux approches possibles. Il y en a une qui est justement d'éviter le plus possible ce genre de situation où un participant prépare un partage Donc il y a ce problème où éviter cette situation où un participant choisit une valeur et en fait un partage et l'envoie à tout le monde. Et donc tous les autres participants sont bien obligés de lui faire confiance. Par exemple, si on fait de la multiplication de Beaver, ça va mieux se passer parce qu'elle ne fait intervenir que des opérations vérifiables ou locales au sens où sont des additions, des multiplications par une constante et puis des révélations, des mises en commun d'un partage. Au moment où on fait une révélation, on peut vérifier la cohérence. Donc rappelez-vous l'algorithme de la multiplication de Beaver. Donc on calcule localement une somme A plus U, une somme B plus V, on révèle ces partages, donc là on peut vérifier la cohérence des parts. Tout le monde apprend alpha et bêta, et on finit par un calcul local aussi. Donc là, si un des participants fait pas son, ne collabore pas, eh bien les autres vont s'en rendre compte parce que le code de détection d'erreur va signaler une erreur. Donc là, la seule attaque possible ici, c'est si les attaquants ont faussé le triplet de Beaver utilisé. D'accord ? Les partages ABC sont bien formés, mais C n'est pas le produit de A et de B. Et ça pourrait être le cas si les triplets ont été générés au préalable, offline, en utilisant le protocole précédent, les produits de Shur entre participants, par exemple. Ou ça pourrait être le cas s'ils ont été produits par un tiers de confiance qui n'est pas vraiment de confiance, bon. Qui est en collusion avec certains des attaquants. Mais tout n'est pas perdu. On peut quand même rendre cet algorithme de multiplication par produit de Beaver plus résistant en sacrifiant un deuxième triplet de Beaver pour vérifier le premier. Donc maintenant, quand on se prépare à faire notre multiplication, on va consommer deux triplets de Beaver, UVW et XYZ. Et on veut confirmer avec une haute probabilité que W, c'est bien le produit U fois V. En supposant que Z, c'est bien le produit X fois Y. En fait, on va confirmer en même temps, avec une haute probabilité, que W égale UV et Z égale XY. Et échouer, c'est avec une haute probabilité, si ce n'est pas le cas. Et donc, si les triplets ont été produits de manière incorrecte ou bidouillés d'une manière ou d'une autre. Et alors, l'algorithme, c'est encore un de ces algorithmes où on calcule des produits à partir d'un autre produit. Donc, on a un anti-aléatoire T qui doit être connu de tous les participants, mais contrôlé par aucun, en particulier pas contrôlé par les attaquants. Donc, par exemple, chaque participant peut tirer un nombre au hasard, le partager avec tout le monde, et puis on se met d'accord que c'est la somme de ces nombres au hasard. Ou on demande au tiers de confiance, si on en est encore à faire confiance au tiers. Donc, une fois qu'on a ce T, on s'en sert pour faire ces calculs de rho et sigma. Et donc, c'est un peu comme dans la multiplication de Beaver, donc U masqué par X et V masqué par Y, sauf que là, on met un petit facteur multiplicatif T pour masquer un peu plus. Bien, donc on révèle ces partages. Du coup, tout le monde connaît les quantités scalaires rho et sigma. Tout le monde peut faire ce calcul du terme d'erreur E, qui est le révélé. Et si vos deux triplets sont corrects, E est forcément égal à 0. Et donc, si E est différent de 0, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas dans le protocole. Et les participants peuvent décider d'arrêter. D'accord. Ou bien, ils peuvent dire on ne vit qu'une seule fois et dire si ça se trouve, c'est peut-être X, Y, Z qui n'était pas bon, ou c'est peut-être mon test probabiliste qui a fait un truc bizarre. Et du coup, on va réessayer avec un nouveau X, Y, Z. D'accord. Et donc là, on est à. Plus on essaye, plus on est sûr. Non, excusez-moi, c'est plutôt l'inverse. Donc oui, si on trouve un E qui est différent de 0, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arrêter le calcul. Si on trouve un E qui est égal à 0, il y a encore une petite chance pour que les deux triplets soient faux, mais de manière cohérente. Et on peut augmenter notre confiance en testant avec le même UVW, mais avec un autre XYZ. Voilà. Alors après, bon, tout ça devient un peu étrange, parce que normalement, les triplets de Beaver ne doivent jamais être réutilisés. D'accord ? C'est comme le masque jetable, puisqu'on s'en sert pour masquer on se sert des parties UEV du triplet pour masquer des choses secrètes. Donc c'est comme le masque jetable. Si vous masquez deux messages différents avec le même masque, il suffit de faire le XOR des deux messages masqués pour retrouver le XOR des deux messages en clair, et ça révèle une quantité faramineuse d'informations. Et donc, en principe, on ne réutilise jamais un triplet de Beaver, alors que là, on utilise UVW une première fois pour ce protocole, et on va l'utiliser immédiatement après pour faire la vraie multiplication. D'accord ? Mais il y a cette idée, justement, d'avoir ce facteur de masquage supplémentaire T, qui, semble-t-il, suffit à assurer que cette double utilisation de UVW est correcte. En revanche, XYZ, lui, a priori, il a été utilisé sans masquage supplémentaire, et donc il ne doit plus être réutilisé du tout. D'où le terme de sacrifier un autre triplet. C'est-à-dire que là, si tout se passe bien, pour faire une multiplication, on va consommer deux triplets. Un qui va servir à. Le deuxième va servir à valider le premier, et le premier va servir à faire le produit. Bon. Voilà, donc ça c'est une manière de faire. Et puis il y a une autre manière, donc, que je mentionne pour référence, parce que je n'ai pas le temps de la détailler. Il y a une autre manière d'authentifier les partages, qui, elle, ne s'appuie pas sur les propriétés des polynômes, les propriétés du partage de Shamir ou du codage de Reed-Solomon. Donc c'est un schéma qui s'applique en fait à tous les schémas linéaires, y compris au schéma additif complet, celui qui a zéro redondance. Et l'idée, c'est qu'un partage authentifié d'un secret S, ça va être un double partage. On va partager la valeur de S, et on va partager une espèce de hachage, de MAC, Message Authentication Code, de S, qui a priori va juste être le produit de S par un entier alpha, qui est un secret global partagé, tiré au hasard au tout début du protocole. Et donc, on a ce double partage, c'est-à-dire que maintenant, chaque participant, il a une part de S, une part de M, le MAC, il a une part du secret, alpha I, et ces conditions doivent être vraies à tout moment, donc S, ça doit être la somme des parts SI, et alpha fois S, ça doit être la somme des MAC, la somme des parts du haché. Et du coup, l'idée, c'est qu'au moment où on révèle un secret partagé, on va se mettre ensemble avec un protocole, on va pouvoir vérifier que alpha fois S, c'est bien M, ce qu'on obtient en révélant la partie M du secret authentifié. Alors, c'est un protocole qui n'est pas complètement évident parce qu'aucun des participants ne dispose de alpha, d'accord ? Donc, c'est encore un de ces protocoles de multiplication. Donc, on sait vérifier cette propriété. Et on a des algorithmes pour calculer de manière homomorphe sur ces partages. Donc on sait faire la somme, le produit scalaire, produit par une constante, mais aussi le produit de deux partages authentifiés, en s'appuyant sur les algorithmes correspondants du schéma de partage linéaire. Et ça, parce qu'il y a cette espèce de double calcul sur S et sur S multiplié par un certain facteur d'échelle qu'on ne connaît pas, eh bien, en fait, les algorithmes de multiplication à base de produits de Schur sont forcément corrects, au sens où si le partage qui résulte à la fin passe ce test, forcément, tous les participants se sont bien comportés. Donc, bon, il faut dérouler un peu les équations pour le voir. Mais donc, c'est très joli parce que ça donne une sécurité active, même en présence de N-1 attaquants. Donc, il suffit qu'un participant soit honnête pour pouvoir détecter les malversations de tous les autres, ce qui est assez remarquable. Voilà. Mais en revanche, il n'y a aucune redondance, a priori, enfin, si le schéma sous-jacent n'est pas redondant. Voilà, et donc si ça vous intéresse, c'est très bien expliqué dans le livre de Evans et compagnie, qui est en référence à la fin du cours. Très bien, eh bien, on arrive à la fin de ce cours, et donc un petit point d'étape sur le partage linéaire de secrets. Donc on a vu que c'est une manière de calculer à plusieurs sur des données privées, avec des protocoles donc, qui contrôlent aux différents instants du protocole, quels résultats du calcul sont révélés à tous et quels résultats intermédiaires, en revanche, restent privés. Alors, c'est une solution qui est tout à fait intéressante au problème de calculer sur des données privées. J'ai l'impression qu'il est adapté à de nombreuses situations pratiques, des situations pratiques qui ne sont pas juste on fait un calcul dans le cloud et on n'a pas confiance en notre fournisseur de cloud, plutôt des situations de type on est plusieurs, on vit ensemble, on ne se fait pas trop confiance, mais on va quand même faire quelque chose ensemble, qui est de calculer une quantité utile à tous. On a vu qu'en plus de la confidentialité des données privées, on peut garantir la résistance aux pannes et la résistance aux attaques actives. Et ça aussi, je trouve que c'est assez inspirant, l'idée que si on a suffisamment de participants honnêtes, en fait, c'est eux qui mènent le calcul. Et les dévier du calcul, dévier du protocole ne sert à rien, en fait. Et il n'y a aucune cryptographie compliquée. D'accord, vous avez juste vu de l'algèbre linéaire. Et je le souligne parce que c'est assez rare dans ce cours. En revanche, alors il y a deux limitations principales qui font que ça c'est pas toujours applicable. Le premier, c'est qu'on est en présence de protocoles nécessairement interactifs. Et donc il faut que les participants soient là pendant toute la durée du calcul. Et comme l'avait fait remarquer Pierrick Gaudry, quand vous dépouillez une élection, par exemple, vous ne pouvez pas supposer que les électeurs sont encore là, disponibles, au bout du téléphone, et que vous pouvez les appeler pour dire « Et au fait, vous pourriez me dire un peu plus sur... Vous pourriez me calculer telle fonction de votre bulletin, s'il vous plaît ?» Donc ça ne marche pas, d'accord ? Donc ça ne rentre pas dans ce schéma de partage de secrets. Et puis, ben, il y a des communications. C'est un algorithme distribué. Et les On a vu qu'il faut faire au moins un échange à chaque multiplication. D'accord. Et ça va limiter beaucoup la vitesse des calculs, parce que les communications, c'est lent. La vitesse de la lumière, c'est pas beaucoup. Si vos participants sont à 300 km de distance, il faudra au minimum une milliseconde pour qu'ils envoient un message. D'accord. Oui, 300 000 km par seconde, oui, ça doit être ça. Il faudra au minimum une milliseconde, et donc vous ne pourrez pas faire plus, un peu plus en réalité, et vous ne pourrez pas faire plus de 1000 multiplications par seconde. La physique vous l'interdit, donc ça limite forcément la quantité de calculs réalisables. Voilà, et donc, je vous avais promis quelques références bibliographiques. Alors, la principale source dont je me suis servi pour ce cours, c'est le livre de Nigel Smart, Cryptography Made Simple, que je vous avais recommandé au premier cours, parce que c'est une bonne introduction sur la crypto en général. Et donc, c'est en particulier le chapitre 19 et une partie du chapitre 22. Et pour aller plus loin, donc il y a ce livre de Evans, Kolesnikov et Rozulek qui est entièrement consacré donc au calcul SMP, au calcul multipartite sécurisé, et qui est relativement accessible encore. Voilà, je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.